France Inter.
C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité. Ta présence.
Je vous répondrai non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule les ténèbres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On en parle tout.
Allez, action !
Ce qui sera encore mieux, c'est de rien dire.
Si on parle de chiffres, c'est un peu l'idée quand on fait un bilan, 2025 a encore vu sa fréquentation cinéma baisser en France. De même, sur la qualité des films proposés, à quelques exceptions près. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous.
Moins 15% donc de fréquentation par rapport à 2024. L'UGC racheté par Bolloré et le RN qui propose de financer des films qui marchent. C'est la France. Bonjour Samuel Douer.
Bonjour Christine.
Rédacteur en chef cinéma à Télérama. Un studio américain historique, la Warner, racheté par Netflix ou Paramount, Suspense. C'est aussi très politique tout ça. Bonjour Jordan Minzer.
Bonjour.
Correspondant pour le Hollywood Reporter. Et au-delà de ça, encore des pépites sur nos écrans. Bienvenue Alex Vicente.
Bonjour.
Pour El País, avec vous trois et nous deux, nous ferons le tour des trésors de l'année sortis sur un grand écran. Enfin, les sorties de ce mercredi de Noël d'un maître du kabuki au temps des moissons. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Papa, le roi t'invite avec toute la famille dans son château en Angleterre.
Dad, en Angleterre, on roule à gauche.
Moi, je suis français, je roule à droite.
C'est du suicide.
Mais pas du tout, c'est du bon sens. Imagine, t'as un Français juste en face de nous, là, qui arrive, il sera sur sa droite. Donc là, accident évité. Voilà.
Et oui, God Save the Tuche reste le plus gros succès 2025 au box-office. Seul français dans les 10 premiers et même le 4e. Qu'est-ce qui se passe, Samuel Douer, là ?
Bah, ce qui se passe, c'est qu'en 2024, on avait deux mastodontes du box-office, oui, qui étaient Un Petit Truc en Plus et Le Comte de Monte Cristo. Ça faisait 21 millions d'entrées à eux deux. Et grosso modo, à la fin de l'année, il va y avoir un déficit de 25 millions d'entrées à peu près, ben voilà, chercher la différence, la voilà.
Canal+ et Bolloré, donc, qui soutient beaucoup de films en France, s'apprêtent à entrer au capital du GC. 34% d'abord, avant une prise de contrôle majoritaire en 2028. Et derrière cette info, Samuel, la crainte d'une mainmise idéologique et des deux côtés de l'écran.
Oui, ben on sait ce que fait Vincent Bolloré dans ses chaînes de télévision et dans les journaux qu'il a rachetés. On sait qu'il a aussi financé des films qui étaient, on va dire, très conservateurs, voire profondément réactionnaires, comme Vaincre ou Périr, le film fait au Puy du Fou. Et donc on peut penser qu'effectivement, le studio Canal et Canal+, qui financent énormément de films en France, ils vont peut-être imposer une grille de lecture idéologique et puis aussi peut-être essayer de faire moins de films de la diversité, c'est-à-dire peut-être plus de films à gros budget, moins de films à plus petit budget. Or, on sait que la créativité et le futur du cinéma français, ça naît dans ces petits films qui plus tard deviendront grands.
Quant au RN, il a déposé un amendement dans le cadre du projet de loi finances pour carrément fermer le CNC afin de réaffecter son budget d'État. Il dit que l'argent des Français ne saurait durablement être ainsi gaspillé dans une vaste entreprise de propagande, sauf qu'il confond l'argent public et l'argent du public.
Et ben, c'est comme d'habitude, en fait, il faut à chaque fois expliquer comment fonctionne le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, c'est-à-dire que ça ne dépend pas des impôts. C'est un organisme qui est financé par les taxes prélevées sur chaque billet vendu dans les cinémas, plus des taxes sur les abonnements aux plateformes, entre autres.
Et les crédits d'impôts.
Et les crédits d'impôts, voilà. Et donc tout ça. Et après, il redistribue l'argent. Donc, ouais, en fait, ce n'est pas l'impôt qui finance le cinéma français. C'est ce système très vertueux. Et ce qui est savoureux, ironiquement savoureux dans l'histoire, c'est que des députés comme Sébastien Chenu, par exemple, ou d'autres députés du Rassemblement National ont donné leur liste des films, leurs films préférés. Et à chaque fois, il y en a sur les 10, il y en a 8 qui ont été financés par le CNC.
Ouais. Donc, là, ça se passe en Amérique, mais ça pourrait impacter le cinéma français parce que moins d'entrées de cinéma US, donc moins de financement. Il s'agit du rachat, Jordan, du studio historique Warner Bros., un catalogue de milliers d'œuvres, de Casablanca à Game of Thrones, par Netflix qui a proposé 83 milliards de dollars, avec une surenchère de Paramount à 108 milliards de dollars. Selon vous, qui va gagner ?
Moi, je pense que Netflix va gagner. Je pense que pour moi, le deal est déjà conclu. Mais il y aura un peu de, comment dire en anglais, du back and forth entre les deux. Mais je pense que moi, ce que j'ai compris, c'est que Ted Sarandos était voir Donald Trump à la Maison-Blanche très discrètement avant de proposer le deal pour avoir. Parce qu'il faut qu'il y ait l'autorisation du gouvernement américain. Sinon, il y a un problème de monopole, d'antitrust, voilà. Mm. Donc, d'une certaine manière, c'est le monopole. Mais si la Maison-Blanche dit OK, ça va passer. Je pense que ça va passer. Et à la fin de l'année prochaine, on va voir. Warner Brothers complètement absorbé par Netflix. Netflix a promis par contre de continuer à distribuer le film de Warner Brothers en salle, ouais, comme avant.
Pour l'instant,
voilà. Mais ils n'ont pas promis par contre de laisser les fenêtres qui existent actuellement pour la distribution aux États-Unis entre la salle et le streaming. Ils ont dit pour ça, on n'est pas sûr, et je pense qu'on va voir des films Warner Brothers qui vont sortir en salle en même temps qu'ils vont sortir sur Netflix, et ça va forcément dire que les recettes dans la salle vont continuer à baisser. Ils baissent, ils sont déjà à moins 20% depuis Covid, et ils n'ont pas du tout récupéré depuis.
Sinon, en termes de cinéma, à la fin, c'est souvent l'Iranien qui gagne.
برسیم به جایی که دیگه کسی به ما نگه چی بپوش چی نپوش چه بکن چه نکن.
Arrivons à ce moment ensemble que personne n'ose nous dire qu'est-ce qu'il faut mettre comme vêtement, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pas faire.
C'est le premier choix de la liste, c'est votre choix, Jordan. Javar Panahi, Palme d'Or 2025. Avec un simple accident, Iran de nos jours, un homme croise par hasard celui qu'il croit être son ancien tortionnaire. Mais face à ce père de famille qui nie farouchement avoir été son bourreau, le doute s'installe, une œuvre sur le désir de vengeance et une charge contre le régime iranien. Et le film va représenter la France aux Oscars.
Oui, ça, j'ai trouvé ça bien, parce que c'est bien pour la France et c'est bien pour le film.
Pourquoi vous riez, Samuel?
Après, c'est marrant parce que chaque année, vous vous moquez un peu de moi parce que j'ai choisi un film iranien.
Non, mais pas du tout. Mais en plus, cette année, il a eu la palme,
voilà,
donc.
Là, j'avais raison de bien choisir un film iranien.
Bon, enfin, c'est peut-être pas une palme méritée non plus.
Non, mais après, moi, ce que j'ai trouvé fascinant dans ces films par rapport aux autres derniers films de Panahi, c'est le premier film qu'il fait, entre guillemets, librement. C'est-à-dire qu'il n'avait plus une interdiction de faire des films, donc il pouvait faire un film plus comme ces films avant l'introduction qui était en 2010, c'est-à-dire un film vraiment mis en scène un peu plus classiquement. Ça, c'est un film en son plein accident assez théâtral presque, c'est comme une pièce de théâtre parfois. Ouais. D'ailleurs, il cite Beckett à un moment donné dans le dialogue, et moi je trouvais ça intéressant parce qu'il y a une idée de l'absurdité, de l'attente. Et c'est quoi l'attente dans ces films? C'est l'attente de la vengeance. Mais comme on voit à la fin du film, sans spoiler la fin du film, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'avant? Est-ce qu'on va réussir à se débarrasser de nos traumatismes? J'ai l'impression que Panahi interroge sa propre vie dans le film et le fait qu'il était en prison très longtemps. Est-ce que ça sert à quelque chose de demander la vengeance après?
Face à un simple accident et en compétition à Cannes cette année, Sirat de Liver Lache, c'était un choc physique, même une odyssée métaphysique. C'est votre choix, Alex. Au cœur des montagnes du sud du Maroc, Luis, accompagné de son film Esteban, recherche sa fille aînée qui a disparu.
Alors, c'était pas une très bonne année pour le cinéma français, désolé Samuel, c'était pas une très bonne année pour le cinéma américain, désolé Jordan.
Ouais.
En revanche, c'était une excellente année pour le cinéma espagnol.
Mais il a raison.
Parce que...
Ça va le melon.
Mais oui, mais non.
Pour une fois qu'on peut s'en vanter.
Voilà, ouais, allez-y. Quoi.
C'est-à-dire, on aurait pu choisir Tardes de Soledad, je pense qu'on en parlera plus tard, parce qu'il y a quelqu'un autour de la table qui l'a choisi, le nouveau film d'Albert Serra. Mm-hmm. J'aurais pu choisir aussi, devinez-le, Le dernier Almodovar,
bien sûr.
La chambre d'à côté, mais j'ai choisi Sirat. J'aurais pu choisir aussi Romeria, qui était à Cannes aussi en compétition, qui sortira en avril, je pense.
Plus une série démente, Los Años Nuevos.
Los Años Nuevos, ouais. Querer,
oui.
En carton, franchement. Voilà.
Il y a Rosalia aussi.
Rosalia, voilà. Oui, franchement, je suis vraiment désolé, mais en carton.
Ouais.
Mais j'ai choisi ces films vraiment désarçonnants et inoubliables, pour des bonnes et des mauvaises raisons, avec cette scène au milieu du film, dont je ne parlerai pas.
Non,
pour les peu de gens qui l'ont pas vu en décembre 2025, mais c'est un récit d'une simplicité presque biblique. Un père cherche sa fille disparue dans le désert, dans une ambiance un peu Troisième Guerre mondiale, mais petit à petit, le film se dépouille et devient quelque chose de beaucoup plus métaphysique. Le désert du Maroc devient le désert de la vie.
Oui.
Ça devient un mélange de Mad Max et de paraboles religieuses. Tout part de cette image du pont de Sirat que chaque âme doit traverser au moment du jugement dernier pour atteindre le paradis. Et on pourrait dire la même chose d'Oliver Lache, qui, après 15 ans de cinéma un peu à la marge, de cinéma marginal, devient un nom central du cinéma, du nouveau cinéma européen. Prix du jury à Cannes, deux nominations au Golden Globe, peut-être une nomination aux Oscars. 700 000 spectateurs en salle en France et un demi-million en Espagne, ce qui est quand même un miracle du cinéma d'auteur. Pour comparer, les films d'Albert Serra en Espagne, ils font juste quelques dizaines de milliers d'entrées. Donc c'est quand même un miracle, c'est quand même l'un des grands phénomènes de 2025.
C'est pas le film américain préféré de notre américain chéri, mais vous l'avez choisi, Samuel, c'est Une bataille après l'autre de P.T.A. Paul Thomas Anderson, où un ex-activiste est confronté à la disparition de sa fille, tandis qu'un suprématiste blanc, son pire ennemi, refait surface avec Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Chase Infinity et Benicio Del Toro.
Ah oui, bah c'est un de mes films préférés de l'année, c'est le film préféré de la rédaction de Télérama et de très loin. Et ce qui est très encourageant, c'est que le film préféré des jeunes lecteurs de Télérama, on a fait un sondage auprès d'eux, et aussi ils ont plébiscité le film, qui est en fait un film, c'est le film le plus grand public qu'a pu faire Paul Thomas Anderson, et c'est un film extrêmement plaisant parce qu'il y a, beaucoup d'humour, DiCaprio est vraiment hilarant dans certaines séquences, il y a des scènes d'action folles, et puis il y a aussi un vrai fond politique très, très sérieux, qui dit beaucoup de choses de l'Amérique d'aujourd'hui, d'hier et d'aujourd'hui, avec quelque chose d'un petit peu visionnaire, parce que le film a été tourné avant l'élection de Trump. Il y a des scènes de chasse aux migrants. On a l'impression de voir la milice anti-migrant de Trump en train d'arrêter tous les pauvres latinos qui sont aux États-Unis.
Et c'est un film Warner avant que Netflix s'en empare. Ça veut dire un film d'auteur à gros budget.
Un film d'auteur à très gros budget. Ouais. Et on peut se dire, si jamais c'est Paramount qui finit par racheter Warner Bros., on peut se dire qu'il n'aurait jamais autorisé un film comme ça. Parce que le discours... il est plutôt anti-Trump que pro. Quoi.
Ouais.
Et puis c'est un film, il y a un casting formidable. Vous avez parlé de DiCaprio. Il y a Benicio Del Toro qui est vraiment génial, qui je pense aura l'Oscar du meilleur second rôle. Et puis même Sean Penn est bon. Quoi.
C'est deux actrices incroyables. Chase Infinity était un acteur que je ne connaissais pas.
Chase Infinity est une révélation. Vraiment une révélation.
On va écouter maintenant un son tellement étrange pour un film tellement étrange.
Pendiente, Paco.
Merci. Merci Laurent d'avoir choisi ce film Tardes des Soledades. C'est vrai, c'est l'alien de l'année. Signé Albert Serra, c'est autour de Andrés Rocarrey, maestro de la corrida, l'exploration de la beauté éphémère et de la brutalité primitive de la tauromachie.
Comme on l'entend là, c'est un film qui s'écoute autant qu'il se voit.
Oui.
C'est-à-dire que la façon dont Serra rend son propos à l'image et au son est absolument saisissante. Ce qu'il veut dire, c'est vraiment l'égalité de traitement, en tous les cas, dans son traitement entre l'homme et l'animal. Dépassant ainsi toutes les polémiques qui peut y avoir, il fait un remarquable travail de cinéma et de mise en place. On n'a jamais vu la corrida sous cet angle-là, de si près, ressenti à ce point ce que peut ressentir le torero, mais aussi, je crois, ce que peut ressentir le taureau. Et ça, c'est absolument magistral, merveilleux. Vraiment, je pense qu'on peut le recommander à n'importe qui, y compris à ceux qui n'aiment pas la corrida.
Oui, je confirme. Oui, c'est mon cas.
Mais c'est vraiment l'incroyable succès de Serra de ce point de vue-là.
Tardes et Soledades qui est sorti en DVD chez Blackout.
Absolument.
Un autre choc signé de l'américain Brady Corbett, The Brutalist, sur 30 ans et en 3h30, le parcours chaotique d'un architecte juif hongrois, c'est Adrien Brody qui l'incarne, de retour des camps, émigre en 47 aux États-Unis, c'est votre choix, genre une performance à 10 millions de dollars, tournée en pellicule, une épopée hollywoodienne comme on ne l'a pas vu depuis longtemps.
Oui, mais justement, un film pas très hollywoodien, non. Parce que c'est tourné entièrement en dehors des États-Unis et avec un petit budget pour ce genre de film. Et c'est ça, je trouve, la réussite du film. Après, j'étais aussi ému par le film. Je trouve qu'il parle de beaucoup de choses en même temps. Je trouve quand même, c'est pas un film parfait, que la première partie est plus réussie que la deuxième partie, parce qu'il y a un entr'acte. Mm. C'est vraiment un film fait un peu à l'ancienne, comme une épopée des années 60 ou 70. Mais après, je trouve que l'ambition de Brady Corbet et sa façon de réaliser son ambition avec très peu d'argent. Par contre, le budget de Paul Thomas Anderson, c'était 150 millions, et là, on est à 10 millions. Et c'est deux films immenses, d'une certaine manière. Et je pense que ça montre un peu l'avenir de certains auteurs à Hollywood qui vont plus pouvoir faire ce genre de film à gros budget parce que les studios sont en train de se transformer en site de streaming. Et donc, il y a des auteurs comme Brady Corbet qui trouvent des solutions et qui arrivent à faire des films très impressionnants en même temps.
Une perle très rare, c'est mon choix, c'est une lettre d'amour au cinéma. C'est Prima la Vita de la réalisatrice italienne Francesca Comencini qui redessine sa relation avec son père Luigi, qui va lui redonner l'envie de vivre après ses années d'addiction à la drogue.
Sempre tentato, sempre fallito. Fallire di nuovo, fallire meglio. Ricordati quello che m'hai promesso.
Lasciami, papà, che cazzo, mi vanno rotte i coglioni!
Se esci da quella porta non mi vedi più.
Vous êtes d'accord avec lui quand il vous dit d'abord la vie, ensuite le cinéma?
Oui, je suis d'accord parce que je pense que c'est une manière de dire que la vie doit être au cœur du cinéma. Je préfère des films imparfaits dans lesquels on sent la vie, la respiration de la vie et l'inattendu, tout ça. J'adore ça dans les films. J'ai toujours... respirer la vie et le cinéma ensemble. Et donc, il n'y avait pas de place pour la mort dans le cinéma, dans le fait d'aller au cinéma, de faire du cinéma, de le regarder. Il y avait la vie.
Merveilleux film de Comencini et Francesca, Prima la Vita chez Pyramide Vidéo, si on veut le rattraper en DVD.
C'est un très bel hommage à ce grand cinéaste injustement considéré qu'était Comencini.
L'incompris.
Les aventures de Pinocchio.
Casanova.
Voilà.
Un autre père au cinéma, un grand réalisateur qui revient vers ses deux filles après de longues années d'absence, ses valeurs sentimentales, du Norvégien Joachim Trier, Grand Prix à Cannes, Alex.
Tout à fait. Les vrais fans de Joachim Trier disent que c'est moins bien que d'habitude.
Ah bah oui,
ils ont tort.
Ils ont complètement tort, je suis d'accord avec Samuel. Donc ce père cinéaste et sa fille actrice en mauvais termes depuis très longtemps. Il lui demande de rejouer le traumatisme majeur de la famille, à savoir le suicide de sa mère qui était résistante, qui a été torturée par les nazis. Mm-hmm. Il y a tellement de couches dans ce film, je trouve ça vraiment magistral. Le traumatisme qu'on hérite de nos parents, le poids de l'histoire avec un grand H dans notre histoire à nous, le rôle salvateur de l'art. Mais je retiens surtout ce portrait de cet homme horrible, de ce père atroce. La plupart des réalisateurs se seraient contentés de dénoncer la figure du père toxique, la masculinité toxique. Je trouve que Joachim Trier a l'intelligence de filmer la possibilité d'une réconciliation, ce qui est un pari rare. Pas un happy end forcé, mais un travail pour rester en lien, ce qui est sans doute le plus difficile. Et je signale aussi que le film s'ouvre avec une crise de panique, aussi drôle que tragique.
Sur une scène de théâtre.
Sur une scène de théâtre, c'est une séquence magistrale. Et je remarque que ça a été un motif récurrent cette année au cinéma.
Ah oui,
les personnages qui suffoquent, je les ai notés. Parce que
allez-y, allons-y, on a le temps.
La petite dernière.
Oui, c'est ça. Vrai.
Eddington, parabole western sur les Covid où il y a beaucoup de difficultés de respirer. Et même Avatar 3, il y a un vrai problème.
Il y a ça oui, pour c'est vrai.
Des personnages, donc c'est sans doute le symbole ou le symptôme de l'asphyxie du présent. Il y a aussi cette année beaucoup de personnages avec les jambes et les bras amputés.
Donc
c'est très bon signe. Ouais, c'est très très bon signe sur ce qu'on vit en ce moment. Ouais, Sirat et un simple accident
oui,
aussi.
Bien sûr,
entre autres.
Évidemment.
Ouais. Donc voilà, c'est bon signe, non, sur ce qu'on vit.
Les valeurs sentimentales. Alors c'est étonnant. Il a obtenu 8 nominations aux Golden Globes. C'est le film le plus nommé. Juste juste derrière, une bataille après l'autre, et notamment tout le casting est nommé. Quoi. C'est vrai que les actrices et Stellan Skarsgård dans le rôle principal sont tous formés.
Il y a Terence Fay aussi. Évidemment.
Et il est disponible en DVD chez Memento Film.
Non, mais je voulais juste ajouter que ça, le fait que Valeur Sentimentale, ça sera la même chose aux Oscars, ça montre aussi que le déclin d'Hollywood et que des films étrangers sont de plus en plus présents aux Oscars.
Parce que cette année, il y a presque autant de films étrangers que de films américains qui sont pressentis pour les catégories.
C'est une tendance qui va continuer.
Il n'y a pas que Joachim Trier en Norvège.
Ah bon ?
Il y a un garçon qui s'appelle Dag Johan Hoggrud. Il a réalisé cette trilogie d'Oslo absolument incroyable avec Rêve, Amour et Désir. C'est votre choix, Samuel. Dans Rêve, Johan tombe amoureuse pour la première fois de sa vie de sa professeure. Dans Amour sur un ferry qui les ramène à Oslo, Marianne, médecin, retrouve Thor, infirmier, dans l'hôpital où elle exerce. Il lui raconte qu'il passe souvent ses nuits à bord à la recherche d'aventures sans lendemain avec des hommes croisés sur ce ferry. Désir, un ramoneur heureux père de famille, en couple avec son épouse depuis des années, a une aventure inattendue avec un client. Jamais j'ai vu Oslo filmé comme ça.
Moi non plus, ça donne vraiment envie d'y aller. Il y a deux des films qui sont tournés en été, déjà ça donne une image très solaire de ce pays qu'on pense plutôt froid. Ouais. Et le troisième film, Rêve, alors lui il est tourné, c'est automne et hiver, mais on est beaucoup dans des intérieurs, on est toujours sous la couverture avec des plaids, beaucoup de laine, c'est très cocon quoi. Et vraiment ce film-là, moi j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a vraiment cette impression, on y est bien quoi. C'est vraiment des films dans lesquels on a envie de rester. Les personnages sont tous extraordinairement attachants, malgré tous leurs défauts. Et alors, l'auteur, effectivement, on le découvre, il a 60 ans, c'était un bibliothécaire, il a travaillé 30 ans à la bibliothèque
d'Oslo,
en écrivant des romans. Il y en a un seul qui a été traduit
je
en France.
Je l'ai lu, magnifique.
Et on sent quand même là, que c'est un romancier, il y a des grandes qualités de dialogue littéraire.
Ouais.
Et il y a, dans la construction, l'utilisation de la voix off, c'est charmant et très profond à la fois. S'il y en a un des trois à privilégier, c'est Amour, voilà, qui est peut-être le plus riche. Et puis c'est dans ce film-là.
On peut le voir dans le désordre.
Oui, on peut le voir dans le désordre, absolument. C'est un des films préférés de Télérama aussi, que vous pourrez voir au Festival Télérama en janvier. Je fais ma pub.
Bien joué.
Et c'est bien de les voir en DVD parce qu'on les voit, on peut les voir les voir à la suite.
Tout à fait. Mais vraiment, comme l'a dit Laurent, l'ordre importe peu.
Ouais. Hein,
j'ai pyramide vidéo.
Et c'est dans Amour qu'il y a la phrase qui résume vraiment le propos du film. C'est l'infirmier qui s'appelle Thor, qui est très gentil, contrairement à ce que son nom pourrait indiquer, et qui dit qu'il est temps de faire confiance à la nature humaine. Je trouve que c'est une belle définition pour cette trilogie.
La trilogie d'Oslo. Ça, c'est une rareté colombienne choisie par vous, Laurent. Alors, c'est incroyable ce film. Ça s'appelle Un poète. Un poète en manque de reconnaissance qui mène une existence solitaire, marquée par les désillusions et sa rencontre avec la jeune Your Lady, une adolescente d'un milieu populaire.
Ben oui, alors Oscar, c'est un poète médiocre et vieillissant. Il est SDF à temps partiel, un peu alcoolo, pas très beau. Sa femme l'a quitté, sa fille ne veut plus entendre parler de lui. Et il rencontre effectivement une jeune fille à qui il propose de concourir pour un prix de poésie. C'est là où le film pourrait imploser, c'est-à-dire devenir un feel-good movie sur les avantages de la belle poésie. Mais pas du tout. On évite tout ça, et c'est ça, c'est formidable. Et du coup, le film oscille vers Dino Rizzi ou Ettore Scola, voire à la fin même, ça m'a fait penser au cinéma roumain dans sa façon incroyable de montrer les réalités sociales. Bref, c'est un ovni, ce poète, et ça a été pour moi une des plus belles révélations de l'année.
J'approuve, et la mise en scène n'est pas loin de Cassavetes, à certains
moments. C'est pas faux non plus.
C'est vrai. Un Chinois dans cette liste, choisi par vous Alex, c'est Black, mais quel Chinois en plus, Black Dog de Yu Guan, un western aux portes du désert de Gobi, une ville pétrolière délabrée avant les JO, dans l'envers du miracle économique chinois, l'amitié entre un homme et un chien, deux âmes solitaires.
J'aime beaucoup ces films, ça m'a beaucoup impressionné.
Ouais.
Il y a un mi-chemin entre le western contemporain et la chronique sociale, un peu à la Jia Zhangke, qui joue un petit rôle dans le film, comme un clin d'œil à cet héritage-là, cette influence-là. Exactement.
Ouais.
On est en 2008, donc la Chine se prépare pour les JO de Pékin, et les autorités entreprennent une immense opération de nettoyage urbain. Tout doit briller pour les JO, y compris au fin fond du désert du Gobi, où cet ancien taulard est embauché pour abattre les chiens qui errent dans les rues. Ouais. Et tous les films parlent du lien inattendu qui s'est créé entre cet homme complètement brisé et l'un des chiens qu'il devait éliminer.
Ouais.
Et ça devient un grand portrait de toutes les victimes de ces changements violents imposés au nom de la modernité et du capitalisme. Donc, et en plus, c'est un film d'une beauté plastique assez désarçonnante.
Oui, sur grand écran, c'était absolument magnifique. Left-Handed Girl, c'est un premier film en solo de Shi Xing Tzu. Elle avait co-réalisé, vous vous rappelez, avec, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais avec Sean Baker, ce film Take Out en 2004. Mm-hmm. Là, elle raconte trois destins de femmes à Taipei, une mère célibataire et ses deux filles confrontées à la dureté d'un univers social qui ne leur fait pas de cadeaux, et notamment un univers masculin. C'est tendre, c'est saisissant, et traversé d'une telle énergie, finesse de l'écriture, émotion réelle, sans misérabilisme, dans le microcosme fascinant du marché nocturne de Taipei. Le tout filmé à l'iPhone, et loin des clichés. D'ailleurs, Tangerine avait été aussi filmé à l'iPhone. Et là, c'est un peu Sean Baker qui est aux manettes, parce que c'est lui aussi qui monte.
Il est producteur aussi.
Moi, c'est un des films préférés de l'année, et ça s'appelle Left-Handed Girl. Il est dans votre liste de Télérama?
Non, pas celui-là, par contre. Black, Black Dog, oui.
Bravo, bravo.
La chambre, alors, Samuel, vous êtes sorti un peu de la frontière des films, vous voulez rendre hommage à une actrice, et cette actrice, c'est Mélanie Thierry.
En particulier pour ce film-là, La chambre de Mariana, d'Emmanuel Finkiel. Pour moi, c'est vraiment un des films marquants de l'année. Alors, Finkiel, c'est un peu le spécialiste des adaptations de impossibles de romans. Il avait fait La douleur de Duras, qui était un très grand film, c'était extrêmement difficile à adapter. Là, La chambre de Mariana, grand livre d'Aaron Appelfeld, mais un peu compliqué à adapter, puisque c'est l'histoire d'un petit garçon juif qui est caché dans un réduit pendant plusieurs années, pendant la guerre, par une prostituée. Donc le film va être sur la relation entre ce jeune homme et cette prostituée que joue Mélanie Thierry.
Dans cet espace clos.
Dans cet espace très clos. Alors, il trouve vraiment des idées de mise en scène extraordinaires pour montrer ça. Et puis, il y a la performance d'actrice phénoménale de Mélanie Thierry, déjà parce que il y a de la performance pure, tout son rôle est en ukrainien, donc il a fallu qu'elle apprenne des tartines de dialogue dans une langue qu'elle a dû apprendre en même temps.
Oui, mais ça,
et on l'oublie très vite. Oui, mais ça, on l'oublie très vite.
Ok, elle a travaillé, mais bon.
Oui, mais elle arrive. On oublie très vite qu'elle n'est pas ukrainienne. Elle arrive vraiment à exprimer tout le potentiel tragique de ce personnage. Voilà, c'est vraiment une très grande actrice. Et elle a joué dans d'autres films cette année qui étaient moins intéressants que celui-là.
Connemara.
Et grâce à elle, le film devient intéressant, parce qu'elle amène toujours quelque chose de vraiment très très fort dans son jeu.
Laurent, un film français, il serait temps quand même, hein, c'est Make Me My Love.
Quel film ?
Canto Doué d'Abdelatif Kechiche.
Ben oui, pour de bonnes et de mauvaises raisons, on doutait de la sortie de Canto Doué pendant des mois. En tout cas, ceux qui avaient, comme moi, absolument apprécié Canto Uno et aussi Intermezzo, mais on n'est pas nombreux parce qu'on n'est pas nombreux à l'avoir vu. Et là, ce film ne sortira jamais, je le crains. Mais ce deuxième ou troisième volet, peu importe comment on prend les choses, est absolument saisissant parce que à la fois il est dans la même tonalité que Canto Uno, avec une vitalité incroyable, mais Kechiche y insuffle une mélancolie qui est, je crois, absolument touchante et qui fait partie aussi de son propos. Je crains, hélas, que ce soit le dernier film de Kechiche pour des tas de raisons, y compris médicales, mais c'est bien dommage. Enfin, en tous les cas, il nous laissera. S'il nous laisse ainsi, ce sera sur une très belle image.
Avec une jeune actrice américaine absolument sidérante.
Qui a dit que c'était son dernier rôle au cinéma.
Oui,
là aussi, il y a de la mélancolie dans l'air.
Qui est reparti en Amérique et qui n'a plus jamais tourné.
Ce qui est très intéressant dans le film, c'est que c'est à la fois tout à fait comme le premier, très différent,
exactement.
Y compris dans la manière de filmer les corps. On a beaucoup reproché à Kechiche d'être obsédé par les fesses des femmes dans le premier. Et ben là, pas du tout. Il y a plus de les seules fesses qu'on voit, c'est les fesses d'un homme et dans une position pas très enviable.
L'Amérique veut soutenir.
Non, mais justement, c'est un film qui se termine aussi avec une critique d'Hollywood. C'est fascinant.
C'est vrai.
On rentre dans une espèce de drame, tragédie hollywoodienne, mais qui se moque aussi un peu du système hollywoodien.
C'est vrai.
Et on va presque terminer avec vous, pas encore. Jordan, vous avez choisi un film français qui passait un peu à l'as, qui a dû sortir l'été dernier.
C'est ça.
Et qui s'appelle Rapace. On écoute un extrait.
Une gamine retrouvée dans un champ.
Passionnel ?
Je crois pas, ils étaient plusieurs.
C'est quoi votre journal ?
Détective.
C'est pour faire chier ton père que t'es venu faire ton stage au journal ?
Je pensais que ça nous rapprocherait.
J'ai besoin que vous me disiez ce que vous savez, vous.
Tout ce que je sais, c'est qu'elle, elle était défigurée.
On l'a aspergée d'acide. On l'entend hurler.
Donne-moi une semaine, je remue un peu la sauce, je vois ce qu'on a. Une semaine.
Ton père, quand il voit la photo de Jessica, il pense aurait pu être ma fille, alors que toi, tu penses aurait pu être moi.
Faut surtout pas penser comme un flic. Parce qu'on va là où ils ne vont jamais. Parce qu'on met le nez là où ils n'osent même pas mettre la main.
Détective, c'est le journal bidon, là, où tout est inventé.
Il y a beaucoup de monde qui pense ça, mais malheureusement, tout est vrai.
Une petite perle noire, effectivement, ce Rapace de Peter Doruntzis, alors, Samuel, le journaliste, et Ava, sa fille et stagiaire, couvrent pour leur magazine dans Détective le meurtre d'une jeune fille attaquée à l'acide. Frappé par la brutalité de ce meurtre, ainsi que par l'intérêt de sa fille pour l'affaire, Samuel décide de mener une enquête indépendante à la suite de sa rédaction. Samuel, c'est Samy Boagila, et la petite, c'est Mallory Vanek.
Oui, justement, j'avais pas vu ou entendu la bande-annonce, ouais. Et je trouve que ça vend assez mal le film, parce
ouais,
que
c'est
le
vrai.
Film est
c'est
plus
vrai.
Subtil, c'est vraiment un polar d'auteur,
oui.
Qui questionne justement notre fascination avec la violence, parce que c'est sur des journalistes qui travaillent pour un magazine comme Nouveau Détective, et qui cherchent les crimes les plus sanglants, et en fait, qui se rencontrent à une vraie menace et un vrai crime, qui commencent à critiquer leur propre métier, et à se rendre compte que le danger est vrai, c'est pas juste une histoire de journalisme. Et donc, moi, j'ai trouvé aussi, dans la mise en scène, il y a quelque chose de très restreint, mais quand il y a des scènes d'action, il y a quelques petites scènes, notamment une scène dans une camionnette avec ouais. une voiture qui le suit. En fait,
c'est très efficace.
Très, très efficace, ouais. Avec très peu de choses. Justement, Samuel a parlé, pas Samy Boagila dans le film, il a parlé tout à l'heure de cinéma de création, d'auteur français à petit budget. Et pour moi, c'est le parfait exemple. Je trouve, malheureusement, le film a passé un peu inaperçu. Ouais. C'est un ami qui m'a parlé de ça il y a quelques mois, je l'ai vu, j'étais, comme on dit en anglais, pleasantly surprised, agréablement surpris ouais. par ces films que je trouve assez sous-estimés.
Il y a une scène centrale étonnante au restaurant, ouais. Une scène hyper stressante.
Une scène d'angoisse pure. Voilà, ils vont être repérés. Est-ce que le journaliste et sa fille vont être repérés par les affreux qui sont en train de traquer? La scène est vraiment hyper, hyper bien faite. On est terrorisé pendant 10 minutes.
Samy Boagila, grand acteur quand même. Hein.
Oui, et qui montre justement un personnage assez complexe, parce qu'à la fois il veut juste avoir son histoire comme journaliste, il veut que sa fille travaille avec lui, et en même temps il met lui-même et sa fille en danger, et c'est ça justement dans ces scènes dans le restaurant où on voit que tout arrive en même temps. Et c'est un film qui parle aussi de l'extrême droite en France, et de
des masculinistes.
Mais oui, ouais. Exactement, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu dans le cinéma français, donc je trouve qu'il y a beaucoup de choses et que ce film malheureusement a été mal vu, mais peut-être ça peut être vu en streaming, si on a le droit de dire le mot. voilà.
On peut ajouter au palmarès tout le plaisir qu'on a pris à Nouvelle Vague.
Attendez, d'abord, dire que Rapace est...
Oui, pardon, chez 7-7.
Alors, voilà, il nous reste un petit peu de temps, donc on peut parler de Nouvelle Vague.
Nouvelle Vague, Richard Linklater, qui a quand même surpris, parce qu'il est allé chercher à la fois un film en noir et blanc, mais quel film, évidemment, à bout de souffle, de Jean-Luc Godard, avec un casting pas du tout improbable, mais pas du tout connu, et ça qui est formidable, c'est que les équivalents sont incroyables. On a reçu ici Godard, hein, et c'était un grand moment, évidemment. Mais non, c'est une réussite absolue de déclaration d'amour au cinéma, dans ce qu'a été ce moment incroyable de la Nouvelle Vague, où tout était possible. Voilà.
Et pourtant, le film n'a pas si bien marché.
Hélas,
que ça.
Non.
Mais
alors,
pourquoi les gens pensent que c'est un truc de niche, qu'il faut aimer Godard, mais absolument pas.
Non.
C'est un film qui donne énormément envie à la jeune génération de se bouger, de faire des films, ou même dans d'autres domaines, d'avancer. Quoi.
Alors, il y aura des séances de rattrapage au Festival Télérama.
Ah,
ça fait partie de nos films préférés. Ça
bravo,
fait partie de nos films préférés.
Et un Festival Télérama bientôt.
Oui, bon. En fait, c'est un film qui, au-delà de l'hommage au cinéma, c'est un film qui a un vrai hommage à la jeunesse.
Oui.
Aussi, et c'est la grande réussite du film, je trouve, par rapport à la Nouvelle Vague, c'est d'avant tout de restituer l'esprit de jeunesse qu'il y avait dans
c'était
ce film.
C'était des genoux.
Dans notre liste, il n'y a pas encore, parce qu'il est sorti récemment, excusez-moi, mais c'est L'Agent Secret de Kléber Mendoza-Filho. Qu'est-ce que.
Quel grand film,
primé
à Cannes.
Qui méritait une palme, lui aussi.
Il
a eu deux prix, l'interprétation.
Bon, c'est la confirmation d'un énorme cinéaste. Je pense que là, il va passer à l'étape, à la vitesse supérieure.
Ouais.
C'est un grand portrait social du Brésil contemporain, de la place de la violence dans la société brésilienne et au-delà, porté par un comédien exceptionnel, Wagner Moura, qui sera peut-être nommé aux Oscars aussi.
C'est ça.
Sinon, vous vous êtes aperçu d'une chose quand même, les garçons, c'est que les deux seules cinéastes femmes, c'est moi qui les ai choisies. Le reste ne sont que des films d'hommes.
C'est vrai.
Moi, j'en avais une, mais on voulait pas en parler.
Ah bah allez-y, alors.
Mais oui, justement, je voulais parler de Catherine Bigelow, qui reste une grande cinéaste d'action américaine. Et son film qui n'est pas sorti en salle, mais qui est pour moi un des meilleurs films hollywoodiens de cette année, mais qui était mal vu, mal discuté, parce que justement, le fait de ne pas passer en salle, ça
précédé
pose un problème.
Précédé d'un gros haine rouge, c'est ça ? C'est Netflix.
Oui, on peut ça. On peut dire the N-word.
Ouais, the N-word.
Après le M jaune de McDonald's, le N rouge de Netflix.
Et sinon, c'est pas une réalisatrice, mais moi, l'une des images que j'ai retendrait, ou l'image que j'ai retendrait cette année dans le cinéma, c'est Perfidia, l'une des héroïnes d'une bataille après l'autre, enceinte jusqu'aux yeux, avec une mitraillette posée sur son ventre, en train de lancer des balles dans les vides.
C'est toujours pas une femme qui réalise un film, ça, quand même.
Non, mais bon, c'est l'image d'une femme.
Les actrices.
Oui, mais quand même, non, je pense que c'est une image assez symbolique de plein de choses. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas une femme réalisatrice, alors qu'il y en avait beaucoup qu'on
aurait pu saluer quand même.
J'adore,
on s'est limité à trois choix. Donc, si on avait eu un quatrième, j'aurais pu choisir la petite dernière d'Afia Herzog.
Voilà,
qui est primée à Cannes pour son actrice principale, Nadia Mehdi. Et puis, elle a reçu le prix Louis de Luc, vraiment mérité.
Avec Alex dans le jury.
Ou alors Valentine Cadic qui a reçu le prix.
Oui, bien sûr, voilà, d'accord.
Le rendez-vous de l'été.
Voilà, rattrapez-vous.
Deux femmes réalisatrices.
On se retrouve après Parcels, Sorry, pour parler des films de la semaine.
Christine Masson et Laurent Delmas.
Laurent, on va commencer par Le Temps des Moissons de Di Huo Meng. C'est le premier film de ce cinéaste chinois à sortir.
Oui.
Il a reçu l'Ours d'argent de la mise en scène à la dernière Berlinale. Shuang doit passer l'année de ses 10 ans à la campagne, en famille, mais sans ses parents, parti en ville, chercher du travail, le cycle des saisons, des mariages et des funérailles, le poids des traditions et l'attrait du progrès. Rien n'échappe à l'enfant, notamment les silences de sa tante, une jeune femme qui aspire à une vie plus libre.
Oui, oui, j'ai vu une superbe chronique rurale dans la Chine de la fin du siècle dernier, c'est-à-dire autant dire une Chine qui est absolument en voie de disparition. Hein. Une année entière, vous le disiez, au rythme des saisons, des mariages, des décès et des moissons, tout ça entremêlé avec beaucoup d'habileté. C'est toujours filmé avec grâce. On songe inévitablement, et pardon avec ce propos d'archéologue, à un autre archéologue chinois qui est Jia Zhangke, on y revient toujours, au tonton Jia, toujours, et dire qu'il faut vraiment aller voir ce film pour être sous le charme, parce qu'il fait naître, moi j'ai trouvé, de très très belles émotions.
Jordan. Jordan.
Oui, j'ai vu le film à Berlin et j'étais hyper impressionné, surtout par cette mise en scène qui m'a fait penser aussi aux cinéastes taïwanais comme Michelle Chen et Edward Yang, c'est-à-dire un cinéma pendant des saisons qui se développe un peu subtilement. Et je trouve que le film a eu le prix de réalisation qu'il méritait complètement.
Et j'approuve complètement. Je l'ai vu aussi à Berlin et c'était vraiment l'ampleur de la mise en scène, des plans séquences extraordinaires pour un premier film. C'est vraiment impressionnant.
Là, on arrive aussi à un joyau, le maître du kabuki de Sang Il-Lee. Son premier film qui sort en France, Nagasaki 64, à la mort de son père, chef d'un gang de yakuza, Kyuko, 14 ans, est confié à un célèbre acteur de kabuki aux côtés de Shunsuke, le fils unique de ce dernier. Il décide de se consacrer à ce théâtre traditionnel. C'est une magnifique fresque, un vrai film de Noël. N'ayez pas peur de sa durée, presque 3 heures, vous le plongerez dans cette histoire de rivalité, de dépassement, de vengeance et de rédemption. Et même les scènes de kabuki, d'habitude absconses et ennuyeuses, deviennent de véritables vecteurs d'émotion.
Oui, moi j'ai eu l'impression qu'on était, c'est le kabuki comme si vous y étiez, sans jamais avoir été japonais, depuis des générations, comme il faudrait l'être pour apprécier cet art. Mais c'est incroyable, il y a une débauche de couleurs, de costumes, enfin c'est absolument magique et effectivement, ne vous laissez pas impressionner par la durée, on s'y plonge et avec délice.
Selon Joy, un premier film signé Camille Lugan, dans une ville grise et sans passé, Joy est une jeune femme orpheline qui vit sa foi avec intensité et ne quitte presque jamais son église devant laquelle elle a été déposée bébé. Un jour, elle fait la rencontre d'Andri, un jeune homme qui se fait agresser sous ses yeux. Elle se convainc bientôt que leurs destins sont liés, un film sur le bien, le mal, le pouvoir et les limites de la foi et de l'amour. Dans un petit film noir.
Oui, alors c'est le premier film après 3 courts-métrages et plusieurs scénarios, co-écriture de scénario de Camille Jugan, qui avait été d'ailleurs aussi étudiante à la FEMIS.
Ah, Jugan, pardon, et pas Jugan, pardon.
Oui, moi j'ai Jugan, mon premier Jugan, c'est comme végan et végan. Ouais. Donc c'est l'histoire d'une grenouille de bénitier qui devient dealer pour le compte d'une junkie. Là, le pitch est quand même pas mal, c'est costaud. On fait quand même plus attendu. Bon, bah hélas, le propos se fait de plus en plus flou au fil de l'intrigue pour se conclure par une drôle de fin, dont on ne dira rien évidemment, mais qui confirme l'impression générale d'un propos finalement assez mal maîtrisé, et c'est bien dommage.
Mais qu'arrive-t-il à Fatih Akin, qui avait des si bons films? Eden, de l'autre côté, là, il signe Une enfance allemande, Hilda Brun, 1945, Printemps 45, au large de l'Allemagne, donc dans les derniers jours de la guerre, Nanning, 12 ans, brave une mère dangereuse pour chasser les phoques, pêche de nuit et travaille à la ferme voisine pour aider sa mère à nourrir la famille. Lorsque la paix arrive enfin, de nouveaux conflits surgissent et Nanning doit apprendre à tracer son propre chemin dans un monde bouleversé.
En fait, c'est un statut particulier que ce film, parce que c'est un film hommage à Arc Baum, qui est une grande figure du cinéma allemand, acteur chez Fassbinder, qui a écrit ses souvenirs de vacances, et Fatih Akin s'empare de son livre, mais en disant par exemple au générique que c'est un film de Arc Baum réalisé par lui.
Oui.
Oui, mais c'est pas possible, quoi. Il faut qu'il assume de faire un film, Fatih Akin, et puis évidemment de se détacher du livre, évidemment de se détacher de l'admiration absolue qu'il a pour ce personnage réel, parce que du coup, ça donne un film absolument académique qui se traîne en longueur, dont on ne voit absolument pas les tenants et les aboutissants. C'est un film hors sol, sans point de vue, sans auteur, du coup, et c'est ça qui est très paradoxal, et effectivement très décevant pour Fatih Akin. Ben, passons cette page-là et attendons le suivant.
C'est vrai, Laurent a raison, je ne pensais pas un jour qu'on pourrait dire que Fatih Akin est académique.
Ouais, oui,
c'est fou. Comme quoi, tout est possible.
L'Englouti de Louise Aymon, 1899, par une nuit de tempête, Aimée, jeune institutrice républicaine, arrive dans un hameau enneigé aux confins des Hautes-Alpes. Malgré la méfiance des habitants, elle se montre bien décidée à éclairer de ses lumières leurs croyances obscures, alors qu'elles se font dans la vie de la communauté. Un vertige chancel grandit en elle, jusqu'au jour où une avalanche engloutit un premier montagnard.
Ouais, alors, moi j'ai pas pu m'empêcher de penser pendant tout le film à l'un des grands films un peu oubliés de cette année, parce qu'il est aperçu qu'il y a un film italien qui s'appelle Vermiglio. De Maura Del Perro, cinéaste italienne.
Mais oui,
on y pense sans cesse, et hélas, on y pense au détriment de l'Englouti de Louise Aymon, qui à force de ne pas choisir entre un portrait d'une hussarde noire de la République en terre hostile, ou bien de l'autre côté un conte cruel et sensuel à la fois, et ben c'est cette indétermination qui nuit beaucoup au film.
Après, alors moi je vais défendre un peu le film. Laurent a raison, c'est sûr que par rapport à Vermiglio, on est très nettement en dessous. Moi, j'y vois quand même pas mal de promesses dans ce film. Elle a vraiment, elle s'est tirée partie d'un décor qu'on voit rarement au cinéma, la montagne sous la neige. Elle a une bonne direction d'acteur. Il y a Galatea Bellucci, qui est une actrice vraiment très intéressante, qu'on a vue aussi dans Chien de la Casse. Et cette année, on l'a vue quelques semaines plus tôt, on l'a vue dans le film de Jérôme Bonnel, La Condition, le rôle de la petite bonne. Elle est très bien aussi.
Oui,
c'est vrai. Voilà, il y a quand même une atmosphère dans ce film qui est peut-être un peu trop long, mais voilà, il y a, je trouve qu'il y a des promesses et c'est vraiment une réalisatrice à suivre.
Bon, on attendra le dégel.
Alors, oui. Il y a deux reprises aussi.
Ah oui.
Tiens, on va en faire parler Jordan peut-être. Ça vous dit quelque chose, La Panthère Rose, Black Edwards.
The Pink Panther.
Oui, oh, pardon. Pardon.
Oui, oui,
pardon.
Oui,
c'est ça.
Oui, alors.
Oui, with the Blake Edwards. Ah oui.
Je vais prendre. Vous avez rien à dire dessus.
Avec
comment il s'appelle l'acteur? Peter Solo.
David Niven. On l'a tué là. Non, on l'a perdu.
On va encore en parler un peu pour ceux qui l'ont pas vu quand même.
La Panthère Rose, c'est une merveille de burlesque et d'absurde absolu. C'est vraiment effectivement sur une musique d'Henri Mancini dont on ne dira jamais assez qu'elle est effectivement géniale.
Un générique de légende.
Mais oui, absolument. Si on n'a pas vu, il faut le voir et surtout sur grand écran parce que c'est un vrai film évidemment de cinéma. Non, c'est une merveille.
Avec Peter Sellers.
Voilà, bah enfin voilà. Il l'a dit.
Il a retrouvé la voix.
Une autre reprise, on a vraiment le temps, Laurence, et Mariage Royal.
Et Mariage Royal, ça vous dit quelque chose, Jordan, avec un certain Fred
Royal Astaire. Wedding.
Yeah. Et Fred Astaire.
Réalisé par.
Oh là là.
Stanley Donen.
Stanley Donen, Royal Wedding, ok. Oui,
c'est
j'ai tout dit.
L'une des scènes extraordinaires, c'est Fred Astaire qui danse en grimpant sur les murs et au plafond. Là, vous êtes scotché, vous n'en pouvez plus. C'est le l'acmé de la comédie musicale Mariage Royal.
On a trois cadeaux quand même pour nos garçons.
Ah oui. Mais bien entendu.
On était bienvenus pour ça. Hein.
Alors, Alex Vicente, je sais que les Espagnols sont amoureux des Italiens, tu parles.
Comment vous dire?
C'est pour ça qu'on vous offre un film né d'un auteur que vous adorez comme nous, qui est Luigi Comencini.
Ah oui, quand même.
Alors Comencini, il y a deux Comencini. Hein. Il y a le Comencini peintre absolu de l'enfance, on en parlait tout à l'heure. Mais il y a aussi un Comencini absolument féroce, qui sait raconter des choses noires et roses à la fois. C'est le cas de À cheval sur le tigre. Je pense que vous ne connaissez pas.
Je l'ai jamais vu.
Eh bien, tant mieux. C'est avec Nino Manfredi et Gian Maria Volonté. Excusez du peu. Et c'est chez Tamasa. Et c'est un petit bijou avec de très beaux bonus.
Beaucoup.
On est très heureux de le conseiller à nos auditeurs et de vous l'offrir.
Bah, voilà. Je vous en dirai plus. Parfait.
Absolument. Jordan, est-ce qu'un certain Harry Essex, cinéaste, vous dites, alors, excusez-moi de la prononciation, hein, vous allez trouver, certainement, je vous le fais passer, c'est Eye the Jury.
Oh, l'affiche est géniale.
Le dessin, je pense que c'est pas une affiche originale, hélas. Chez Studio Canal. C'est la première fois que Mike Hammer, le détective, apparaît à l'écran avant.
Mickey Spillane,
en quatrième vitesse. Ouais. C'est absolument noir comme il faut, comme on aime. C'est de 1953. Il y a un bonus merveilleux proposé par Bernard Benoliel. Franchement, là, ça fait partie des pépites qu'on aime que l'édition vidéo sorte.
Quelques secondes pour.
Un film grec pour vous, Samuel Douer. Je ne sais pas si vous avez vu Sous tension.
Non, je ne l'ai pas vu.
Ah ben très bien. De Penny, Je prends mon souffle. Panayotopoulou. Je crois qu'il est à peu près descendu.
C'est
chez Epicentre. Merci. C'est gentil. C'est chez Epicentre. C'est comment un officier de sécurité fait une arnaque au dossier médical. C'est assez saisissant.
Merci beaucoup à tous les trois, Jordan Minzer, Samuel Douer et Alex Vicente.
Merci à vous.
Merci à notre belle équipe Valérie Ayestaray à la réalisation, Benjamin Ducy à la préparation, Olivier Rioux à la programmation musicale, et aux manettes ce matin, Élise Christophe.
Merci.
Au revoir.
Salut.
C'était On aura tout vu sur France Inter.